pas entendre dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Julien Jean-Pierre. Le lendemain, Godefroy se tenait en attendant son tour pour jouter dans la tente qu'on lui avait prêtée. Il lui fait vin à lui.
« Tout seigneur, ma maîtresse serait heureuse que tu veuilles prendre ses couleurs pour jouter. »«
Quelle est ta maîtresse ?»«
C'est une des filles du comte. »«
Son nom, le comte en a plusieurs. »
Je ne dois pas te le révéler.
Et pourquoi? Vous serez après le tournoi.
Quel est ce mystère?
Bien, j'accepte.
La vieille lui tendit une écharpe blanche et partit.
Puis, ce fut le tour de Godefroy.
Son adversaire avec qui il devait se battre jusqu'à présent était le meilleur. Godefroy, avant de se battre avec lui, devait s'abattre avec plusieurs chevaliers. Le premier chevalier qui l'eut le désarma avec sa lance. En tombant, il se brisa les reins. Le deuxième fut guère mieux. Le troisième voulut se battre à l'épée une fois à terre. Godefroy n'en fut qu'une bouchée, transperça le ventre. La foule était émerveillée. Devant tout ça, j'entendais le galop des chevaux. Se battit encore avec 5 autres personnes. Enfin ce fut la personne avec qui il devait se battre, le fils du seigneur. Durant tout le combat, il avait gardé les couleurs d'un mystérieux jeune fille. Il avait beau à chaque combat, chercher à savoir quelle avait été la jeune fille, elle restait toujours mystérieuse. Son adversaire semblait 2 fois plus grand, plus fort que lui. Ils commencèrent à se battre l'un contre l'autre en joutant. La foule était en haleine. Tout le monde se taisait. On n'entendait que le bruit des chevaux, le galop des chevaux. Ils se touchaient, mais aucun des deux ne fut désarmé. Ils recommencèrent 5 fois. Puis la 6e fois, Godefroy et son adversaire se désarmèrent mutuellement et tombèrent à terre.
Ils sortirent leurs épées. Le tournoi fut terrible. Ils se battaient au milieu de la poussière, car le vent s'était levé. Ils étaient tous les deux en sueur. De la sueur coulait la poussière. Les épées se cognaient sans arrêt, avec rage. Ils étaient d'égale force. Tout à coup, Confort fut blessé à l'épaule gauche. Le sang jaillit. La foule qui était jusque-là était restée silencieuse en voyant Godefroy saigner, se mit à pousser des grands cris. Godefroy fut surpris par sa blessure, mais croit que très profonde, elle te faisait pas souffrir. Après quelques secondes d'hésitation, il continua à se battre. La foule, après avoir poussé un grand cri, se tut. Les épées se croisèrent pendant un temps qui parut interminable. Aux spectateurs comme aux combattants, il faisait de plus en plus chaud. Le vent chaud qui soulevait la poussière et la collait. Tous ses corps en sueur, elle passait à travers leurs armures. Elle venait se coller sur leur peau. Le poids de leurs armes leur pesait de plus en plus. Ils étaient en âge dans leur armure. Leur corps était moite, était piqué, meurtri par des piqûres causées par les coups de maille. Leur casque était relevé. Ils avaient la bouche sèche et leurs lèvres étaient blanches. Et pourtant, ils continuaient à se battre. Tout à coup, le fils du Seigneur a un mouvement de faiblesse. Pendant presque une seconde, il se protégea. Alors, Godefroy, de ses deux mains, souleva son épée et trancha la gorge à son adversaire. La foule poussa un cri d'horreur. Un immense cri et se tut. La tête tomba à terre et un jet de sang jaillit. L'armure de Godefroy. Le corps resta debout quelques secondes, sans tête. Elle aurait dit un pantin ou un homme ivre dont les jambes fléchissaient. Il s'effondra dans la poussière. En fracas en face de la tête, qui avait les yeux et les lèvres grandes ouvertes, comme une personne horrifiée. Godefroy resta debout, l'épée ensanglantée à la main. Après quelques minutes, la foule sortit de sa stupeur et se mit à crier. Victoire! Godefroy s'avançait devant la tribune, l'armure et l'épée tachées de sang. Il semblait triste et penaud. Qu'allait dire le comte? Il venait de tuer son fils.
posa son stylo. Il avait fini d'écrire, il avait assez pour ce soir, referma le cahier sans relire ce qu'il avait écrit. Il était trop lent, et puis demain il fallait qu'il aille voir l'agent de change. En se déshabillant, il songeait que cela faisait 3 mois qu'il n'avait pas rendu visite à sa femme. Charles n'avait pas envie de rejoindre ses amis. Il préférait rester seul dans ses pensées. Les rues étaient grises, sans soleil, les passants peu nombreux. Charles marchait sans rien voir. Il était dans ses pensées. Un jour, un désespéré s'était suicidé dans le village où il exerçait. Il le connaissait très bien. Ils avaient souvent conversé ensemble. C'était un pauvre homme d'une trentaine d'années. Il vivait seul et solitaire. Les gens ne l'aimaient pas car il les regardait avec un œil critique. Malgré sa pauvreté, ses gestes avaient l'impression qu'il était plus grand qu'eux. Les gens avaient l'impression qu'il était plus grand qu'eux. Parce qu'il avait des gestes et des goûts au-dessus d'eux. Il aimait bien parler avec Charles. Il aurait aimé que Charles fût un refuge pour lui, qu'il aidât à supporter les peines de la vie. Il ne supportait pas les souffrances, la médiocrité. « Mon père, c'est impossible d'être heureux dans ce monde. Il y a tant de misère, de souffrance. Une personne entourée de tout cela, si elle est heureuse, c'est qu'elle est aveugle, sourde. Non, mon père, le bonheur ne se trouve pas dans le malheur. Il se trouve dans le bonheur. Mon père, à quoi cela sert-il de vivre? Nous vieillissons, devenons des monstres. Notre corps n'est qu'une plaie douloureuse. Non, il vaut mieux mourir à 20 ans. Où se trouve la grandeur, l'absolu, qui doit être le but, l'aboutissement de notre vie? Dieu, ce n'est rien.
puisqu'il laisse les innocents dans la misère. Pourquoi aimer Dieu? Nous aime-t-il lui? S'il nous aimait, pourquoi nous fait-il souffrir? Mon Père, je m'attends que l'on m'aime. Et puis, de toute façon, c'est trop tard. Je ne supporte plus la vie. Je souffre de vie. C'était la dernière phrase qu'il avait dit à Charles. Et qu'avait répondu Charles à toutes ces questions? Rien, des choses plates, sans importance, des choses à l'emporte-pièce. Le bonheur se trouve avec soi, avec Dieu. Et se dire que les souffrances terrestres sont passagères, l'éternité est au bout de votre vie, un bonheur sans fin. Nous vivons pour servir Dieu dans sa gloire. Le vieillissement, la bénédiction, la maladie sont causés par le péché originel. Et puis, ne dit-on pas que lorsqu'on souffre, Dieu nous sourit? Et la résurrection de la chair. Le but de la vie, c'est servir Dieu. L'absolu, c'est Dieu. L'aboutissement, c'est arriver au royaume de Dieu. Dieu, c'est tout. C'est lui qui décide de tout. Dieu, c'est la vie. Personne n'est innocent sur terre. Le malheur vient des hommes. Si l'homme souffre, c'est de sa faute. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, car Dieu, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez rien. Si on fait souffrir, c'est pour vous faire comprendre que nous avons péché. Mais l'on vous aime, Dieu vous aime. Il n'est jamais trop tard pour recevoir son amour. Charles ressentit un malaise. Toutes ces réponses qu'il avait données étaient plates, sans personnalité, sans amour. Il avait dit comme une personne qui récitait quelque chose. Il aurait dû parler avec plus de ferveur et d'amour. Il aurait dû donner l'impression qu'il pouvait compter sur lui. Il n'a pas su le soutenir, l'épauler. Il n'a pas su lui donner un peu de foi. Charles était si timide que sa timidité le raidissait. Cela le rendait sec et nerveux. Et puis, cet homme qui venait chaque soir poser des questions, cela le gênait. Il y avait aussi une chose, c'est que ces questions que l'homme troublaient Charles, et ces questions devenaient les siennes à lui. Charles ne savait plus où il en était. Un matin, l'homme était parti. Il a été trouvé, quelques jours plus tard, dans un champ, mort d'un coup de revolver. Troublé, il se disait que c'était à cause de lui qu'il
n'avait pas su le sauver, qu'il se sentait coupable.
Croyant, lui, qui croyait en Dieu, qui aimait Dieu, comment n'a-t-il pas pu communiquer son amour? Comment lui, qui naissait dans la foi, a-t-il pu ne pas répondre aux questions de cet homme? Il réfléchit un moment et se rendit compte que lui aussi se posait ces questions et que les réponses que la religion lui donnait ne lui apportaient rien. Alors il se dit que la religion est impuissante devant les malheurs de l'homme. La religion ne pouvait ni aider ni épauler les désespérés. À quoi servait la religion? À servir une vieille tradition qui est de se réunir en groupe dans une pièce pour gémir ses peines. Charles se dit qu'il voulait être prêtre pour aider les autres, puisque la religion ne peut les aider, demanda un entretien à son évêque.
Qu'est-ce que tu fais? Rien, je n'ai plus envie. Mais je crains rien, je te paierai. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais un peu d'amour, je me suis encore trompé. Tu ne me donnes que du sexe. Alors je me rhabille. Elle remit ses bas, assis sur le lit. Charles restait allongé, sur le lit. La chambre était minable, sombre, sale. Il était nu. Il ne bougeait pas.
Tu ne t'habilles pas?
Oui.
Piano pour aller rejoindre les autres pour le thé. Alexandre lisait un article disant que la guerre était inévitable. Hélène se demandait s'il y avait la guerre, comment serait son habit d'infirmière. Le blanc lui irait sûrement bien. Éric sommelait. Achille pensait à son départ pour Paris. Pendant la promenade, Hélène et Achille parlèrent de ce qu'ils devaient prendre pour Paris. Achille allait à Paris pour passer un examen sur la botanique. Il avait appris la botanique pour son plaisir. Il ne voulait pas en faire un métier. Il voulait simplement connaître les plantes pour pouvoir les aimer, les contempler. Il n'était pas heureux d'aller à Paris, cette ville, le bruit, la foule. Tous ces gens qui vont, viennent, qu'on ne veut pas s'empêcher de regarder. Toutes ces choses, l'aide que l'on côtoie. Non, l'on était si bien ici, oui, mais il y avait l'examen. Un examen pour le plaisir, rien que pour le plaisir. La famille, toute la famille était triste de voir partir un de ses membres, partir au loin, dans la jungle, au milieu de tous ces sauvages, et puis toute cette laideur. Non, ne veut-il pas se perdre, ou nous ramener quelques maladies ou manies de là-bas? La tranquillité de la famille était en danger. Déjà, un en moins faisait un bonheur en moins. Tout ceci était beaucoup. Achille mettait le bonheur de la famille en danger pour une histoire de botanique. Ah non alors! Il voulait le garder, faire en sorte à ce qu'il ne parte pas. Achille était à deux doigts d'accepter et de ne pas partir. Lorsqu'il reçut une lettre de ses camarades de cours, elle lui disait qu'elle allait lui faire visiter la serre du jardin des plantes. Là, elle décida définitivement d'aller à Paris. Hélène avait beau lui dire que les fleurs du jardin étaient aussi belles et qu'elles au moins elles étaient en liberté. Non, rien n'y fit. Donc Achille partira pour Paris. Pendant la soirée, Achille révisa ses cours. Flore, de peur de le troubler, se mit pas au piano. Elle resta assise en silence à contempler Achille. Hélène recousa un bouton de sa chemise d'Achille. Éric rêvassait l'époque où il passait ses examens. La philosophie, Bergson, Nietzsche, Spinoza, Girardon, Platon, Aristote, tous ces examens pour rien. Cela aura tout de même permis de connaître les pensées de tous ces grands hommes. Est-ce que cela a aidé à vivre, à mieux voir les choses? Non, car l'apprentissage de la vie doit être fait par elle-même, pas par l'intérieur de soi des autres. La sagesse ne se trouve ni chez les autres, ni dans les livres. Elle doit s'accumuler grâce à des expériences de la vie, à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous-mêmes. Alexandre aimait bien ses pendules. Cela le rendait heureux. Il était dans son petit monde à lui, bien à lui. Chaque pendule avait un mot. Alexandre l'avait baptisé. Lorsqu'ils les prenaient, ils appelaient par leur nom.
Alors, ma petite Caroline, ça ne va pas aujourd'hui? Tu as 2 minutes de retard? Il va falloir que je te nettoie. Oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Voilà. Tu es remonté.
Tu savais comme ils sont, Charles. Comment te dire? Ils vivent repliés sur eux-mêmes. Ne font, se fait une petite vie, un petit bonheur, bien à eux. Ils sont incapables de voir le monde comme il est. Il y a une chose horrible, tu sais. C'est que tout ce qui ne les concerne pas, ça ne les touche pas. Il peut se passer dans le monde n'importe quoi. Guerre, famine, épidémie. Ça les laisse froids, insensibles, du moment que leur petite vie n'est pas touchée. Mais toi, t'as toujours vécu avec eux. Comment es-tu arrivé à voir les souffrances des autres? Lorsque j'avais 16 ans, tu sais ça, j'ai vu le monde tel qu'il était grâce à plusieurs expériences que la vie m'a mis sur mon chemin. Donc, la première de ces expériences était lorsque j'avais 16 ans. Tu sais qu'à cet âge-là, on est assez timide et mal dans sa peau. Et en plus, je voyais la vie avec les yeux de ma famille. Mais instinctivement, j'avais un grand besoin d'amour. Je voulais aimer. Et me faire aimer. À part le collège, je ne sortais pas. Je voyais personne. Et comme le collège n'était pas mixte à cette époque-là, et puis de toute façon, je ne pensais pas aux filles. L'idée ne venait jamais, ne serait jamais venue à l'esprit d'en fréquenter une. Elle ne m'intéressait pas. Donc, je te disais que je cherchais quelque chose sur quoi je pouvais reposer mon affection. Au collège, je parlais très peu à mes camarades. J'étais timide et réservé. Un jour, le professeur de français...
Non, monsieur. Nous non plus, on n'aime pas...
me fit changer de place et me mit à côté d'un élève nouvellement arrivé.
Il est vraiment...
Je m'assis et rangeais mes affaires sans oser les yeux ou regarder mon voisin. Je fis tomber ma règle, la ramassa.
Il est mort, il
me l'a tendu.
Il a été tué à la guerre de 14.
Je levais la tête pour la ramasser.
Sa mère était rempailleuse.
Ne riez pas bêtement.
Et je vis...
La mère de Peggy était une femme très méritante.
Le visage le plus beau qui soit au monde.
Savez-vous quelque chose?
Tête angélique.
Non, monsieur.
Les cheveux ondulés blonds foncés. Des yeux et un sourire. Mon cœur se fendit. J'en fus tout de suite amoureux. Je le remerciais de m'avoir ramassé ma règle. Durant le cours, j'ai passé mon temps à le regarder. En plus du visage, j'avais remarqué ses jambes. Ses jambes étaient, comme il était plus jeune que moi, il portait encore des shorts anglais. Elles étaient fines et d'un lisse doré. Prêtre, je finis par croire que tu es comme mon Terlan. Heureusement que je te connais. Non, et puis j'avais 16 ans. Je ne me rendais pas vraiment compte. Et puis, si j'avais rencontré une fille, ça aurait été la même chose. Je te disais, c'est que lui aussi me regardait. Donc, nous sommes devenus amis. Cela a duré 6 mois. Nous étions toujours ensemble. Il était issu d'une famille très pauvre qui me présenta. J'appris avec lui ce que c'était la misère, l'injustice. Au fil des jours, je l'aimais de plus en plus. Mais mon amour se purifiait. Ce n'était plus son visage ou ses jambes que j'aimais, mais c'était lui et ce qu'il était. Lorsque le soir je le raccompagnais chez lui, sa façon qu'il avait d'embrasser sa mère, les soins qu'il lui apportait, et lorsqu'il venait pleurer sur mon épaule parce que sa mère était malade. Un jour il tomba malade. Je venais le voir tous les jours après la classe. Il avait eu une grippe, une simple grippe, mais mal soignée par manque d'argent. Son état s'empira et il en mourut. Ce fut pour moi un énorme chagrin. J'en tombais malade. Durant 2 jours, disons 10 jours, je restais dans mon lit avec le délire. Après, je voulais faire comprendre à mes parents mon malheur. Ils restaient indifférents. Cela ne les touchait pas. Un pauvre dans la ville était mort. Pour eux, ce n'était qu'une histoire à la Dickens. J'en fus horriblement peiné et outré. Depuis ce jour, il y eut un mur entre eux et moi. En sortant du collège, le soir, je ne rentrais pas tout de suite chez moi. Je me promenais, regardais la ville, j'observais ce qui m'entourait, j'apprenais la vie.
Le sac de farine était à 35 livres. On en faisait 110 pas de 4 livres à 9 francs. Maintenant,
la vraie vie.
Ce que je voyais faisait pitié.
Que de misère, de tristesse. J'aurais aimé aider, secourir, mais comment?
Comment il sanctionnerait ta prochaine carte?
Vous êtes des braves gens de Dieu.
Que de misère. J'aurais aimé aider, secourir, mais comment? Un jour que j'étais dans mes pensées, un homme me bouscula. Excusez-moi, mais je suis médecin. Voilà le déclic de ma vocation. Le mot médecin fait réveiller en moi quelque chose. Il fit jaillir tellement de choses. Oui, je vois. Tu as connu l'amour qui t'a sensibilité et permis de chercher à voir le monde tel qu'il était. Puis tu as eu besoin d'aider ceux qui souffrent. Oui, c'est ça, Charles. Et ta famille? Oh, ma famille, j'étais devenu indifférent à leur joie, leur petit bonheur. Moi, je voulais un bonheur universel, un bonheur pour tous. Il m'était impossible d'être heureux tant que je savais qu'il y avait un être humain qui souffre. Eux, ils ne comprenaient pas et étaient tristes de me voir s'éloigner d'eux. Lorsque j'eus 18 ans, je décidai de prendre une chambre en ville. Oui, je sais.
Thank you.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.